Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous continuons aujourd'hui à traquer l'économie sur le champ de bataille. La science économique a tenté au cours des siècles de saisir le lien entre affrontement militaire et croissance. Nous l'avons vu hier, l'enrichissement des nations peut naître d'un conflit ou au contraire mener à la guerre. À présent, nous revêtons le treillis des soldats de métier. Les armées nationales font de plus en plus appel à des sociétés militaires privées, dernier avatar de la figure du mercenaire. La guerre a changé de visage et cette évolution s'est accompagnée de nombreuses dérives, dont la société Blackwater, accusée de crimes de guerre en Irak, est devenue le symbole. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons suivre la trace des nouveaux mercenaires en compagnie de Jean-Jacques Roche, politiste, professeur à l'Université Paris 2, directeur de l'Institut supérieur de l'armement et de la défense, l'ISAD, en compagnie également de Walter Bruyère-Ostels, en duplex de Nîmes, historien, professeur à Sciences Po Aix, auteur de ses deux ouvrages parus aux éditions du Nouveau Monde, Dans l'ombre de Bob Denard, Les mercenaires français de 1960 à 1989, et Volontaires armés, ces Français engagés pour des causes étrangères depuis 1945. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Walter Bruyère-Ostels et Jean-Jacques Roche, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, comment est-ce qu'on pourrait définir cette figure du mercenaire dont finalement, Walter Bruyère-Ostels, on peut faire remonter l'existence à l'Antiquité ?
Oui, tout à fait. Il est coutume de dire que c'est le deuxième plus vieux métier du monde par comparaison à un autre qui a plus ou moins toujours traversé les sociétés. Et de fait, la fragilité ou la moindre construction des États a toujours fait qu'ils avaient tendance à déléguer à des acteurs privés une partie de la conduite de la guerre.
Et alors, ce qui a évolué depuis la fin de la guerre froide, Jean-Jacques Roche, c'est que cette guerre, qui était souvent une guerre entre des États, est devenue une guerre de moins en moins conventionnelle, on peut dire cela ainsi ?
Les grandes guerres entre États sont derrière nous, fort heureusement. Ça ne veut pas dire que la guerre a été mise hors la loi, mais elle est sous contrôle. À la place, on a assisté à une multiplication d'interventions dans des conflits infra-étatiques. Il y a aujourd'hui, d'après les dernières statistiques de l'Uppsala Data Conflict Program, il y a 50 conflits infra-étatiques, dont 18 qui sont internationalisés. Et ce sont dans ces conflits infra-étatiques internationalisés que nous voyons des forces constabulary. On n'est plus dans un usage de la force comme entre les États, c'est un usage de la force plus réduit dans lequel ces entreprises de sécurité privée ou ces entreprises militaires privées peuvent intervenir.
Alors justement, dans quel contexte est-ce que ces sociétés militaires privées émergent et se renforcent, Walter Bruyère-Ostels ? Et dans quelle mesure est-ce qu'elles ont à cœur de se distinguer peut-être de l'image, de la mauvaise image associée au mercenariat ?
Alors, je crois qu'il faut une réponse en deux temps sur le plan chronologique. La première qui est une analyse de temps long, en fait, puisque historiquement, sur le temps très long, alors sans remonter à l'Antiquité, mais au moins à la Renaissance, on a toujours eu à côté de mercenaires qui réfléchissaient uniquement en termes comptables et de façon purement indépendante, des gens qui avaient construit un système entrepreneurial. Et typiquement, c'est ce qu'on appelle les condottieri à la Renaissance, avec le principe d'une condotta, c'est-à-dire d'un contrat lié à l'État. Donc ça, c'est sur le temps long. Et puis le deuxième temps, je dirais beaucoup plus proche de nous, c'est la rupture qui a été évoquée précédemment, c'est-à-dire en gros la sortie de la guerre froide, la fin des conflits interétatiques de façon systématisée, comme dans la première moitié du XXe siècle, pour basculer vers de la basse intensité, avec dans les années 90, en gros, la structuration de sociétés telles qu'on les connaît assez largement jusqu'à nos jours.
Structuration de sociétés qui s'est fait en parallèle d'une professionnalisation et d'une spécialisation des armées nationales. Jean-Jacques Roche.
Dans la mesure où on a assisté avec la fin de la guerre froide à une demande des sociétés civiles de toucher les dividendes de la paix, l'une des manifestations de ces dividendes de la paix, c'est la guerre zéro mort, entendez par là zéro soldat tué sur le champ de bataille, et l'une des deuxièmes conséquences, et la deuxième conséquence, c'est bien évidemment la nécessité de faire appel à des professionnels pour tout un tas de missions qui ne sont peut-être pas des missions de combat, mais des missions qui vont tourner autour du combattant, très en amont en matière de formation, de logement, d'habillement, durant le combat en matière, pour préparer le combat en matière de logistique, voire en matière de renseignement, et puis après le combat pour tout ce qui est la reconstruction, là où les soldats des armées nationales sont intervenus pour sécuriser, les entreprises militaires privées vont intervenir dans le processus de consolidation.
Alors écoutons justement le patron de l'une de ces sociétés, Neil Livingston, qui est le directeur de Global Options.
Well, we provide a full range of security services here and abroad. We also collect intelligence for businesses, what we call competitive intelligence, and we deal with crises all over the world today.
Notre domaine s'étend à la sécurité en général. Ça peut être aussi de la communication de crise, tout aussi bien que de l'intelligence économique, c'est-à-dire avoir des informations compétitives.
And these crises may take the form of everything from, say, racial and gender problems in the United States, natural disasters, such as we're seeing on the Gulf Coast today, or they might be, how do you deal with the Russian mafia? How do you do business in a very difficult place like, say, Uzbekistan or even Iraq today?
Et pour ce qui est des situations de crise, ça peut être aussi bien faire face à des problèmes raciaux, des problèmes sexuels aux États-Unis, comme faire face à des catastrophes naturelles. Mais ça peut être aussi s'implanter économiquement dans des pays très dangereux comme l'Ouzbékistan, ou plus dangereux encore comme l'Irak.
Walter Bruyère-Hostel, ce qu'on entend bien ici, c'est que les missions de ces sociétés peuvent être extrêmement variées.
Oui, tout à fait. Comme l'a bien expliqué Jean-Jacques Roche, on a toute une mosaïque d'activités en amont et en aval de la guerre. Et en réalité, les sociétés telles qu'on les observe aujourd'hui proviennent de l'un de ces secteurs. Et puis par le jeu de recomposition interne à ce milieu, notamment après la baisse des contrats en Afghanistan ou en Irak, sont devenues pour les plus grosses d'entre elles des acteurs qui sont capables de couvrir quasiment l'ensemble de l'offre nécessaire aux armées, donc de ce fameux amont, c'est-à-dire effectivement l'habillement ou la construction de camps de base, jusqu'à l'aval pour le retour progressif à la sécurité dans les États.
Jean-Jacques Roche.
Ceci étant, il est très difficile de définir une spécificité pour ces professionnels qui ne sont pas des militaires. On a essayé d'avoir une définition autour du soldat, en cercle concentrique, mais en fait, aucune de ces définitions ne tient durablement la route. L'une des dernières propositions était de distinguer ce qui est de l'intervention sur le terrain dans les OPEX, dans les opérations extérieures, et tout ce qui est préparation de l'OPEX sur le territoire national jusqu'à l'acheminement. Mais même cette distinction ne tient pas la route. Donc, il est clair qu'à partir du moment où on a des armées professionnelles, celles-ci doivent nécessairement, et c'est la Cour des comptes qui le dit dans son rapport de 2011, faire appel à des opérateurs privés, mais le rôle précis de ces opérateurs est difficile à définir, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique.
Et justement, venons-en au point de vue juridique, quel est le droit qui encadre ces sociétés en zone de guerre? Qu'est-ce qu'elles sont autorisées à faire et qu'est-ce qui leur est interdit, si on commence par le droit français, Walter Bruyère-Hostels?
Alors, le droit français s'est en réalité positionné par rapport au droit international ou, pour le dire autrement, par rapport à l'absence de droit international ou à des insuffisances du droit international. Et je crois que c'est d'abord du droit international qu'il faut partir. La réflexion, elle est essentiellement partie, en fait, de la tentative de définition du mercenaire. Alors d'abord dans le cadre de l'OUA, on était dans les années 70 pour faire simple, et puis on a une convention internationale de l'ONU en 1989. Or, ces textes internationaux ou le DIH, le droit international humanitaire de façon plus générale, étaient insuffisants finalement, à la fois par inadéquation entre le terme de mercenaire et puis certaines activités loin du cœur de métier militaire de ces sociétés privées. Et puis par ailleurs, pour en arriver au cas français, même quand on était dans le cœur de l'activité militaire, les définitions internationales ne semblaient pas suffisantes, d'où le choix de la France de faire une loi en 2003, qui est aujourd'hui la loi de référence pour freiner les activités, mais encore une fois, de mercenariat, et non pas sur les employés de sociétés militaires privées, pour lequel en réalité on a toute une jurisprudence qu'on peut mobiliser, mais on n'a pas un cadre législatif précis. Ça renvoie à la question de l'éventail des activités. Évidemment, juger quelqu'un qui fait de la logistique ou de la cuisine, ça va pas être exactement la même responsabilité sur le plan juridique que quelqu'un qui fournit du renseignement qui va servir à une opération militaire.
Un cadre législatif insuffisant, Jean-Jacques Roche.
Alors, le cadre a quand même évolué. Alors, la loi d'avril 2003 était nécessaire. Il était nécessaire d'avoir un texte pouvant incriminer non seulement des individus, mais également des sociétés qui recrutaient des individus pour fomenter des coups d'État.
Il y avait cette idée que le combat direct était interdit, par exemple.
Alors, pas exactement. Ce qui était interdit, c'était de recruter des personnes étrangères à des salaires supérieurs à ceux qu'elles auraient touchés dans leur pays d'origine, avec des missions politiques. Donc ça, c'était interdit. Ceci étant, cette loi a été interprétée de manière beaucoup trop extensive dans le cas français et on a couvert, avec cette loi qui était destinée précisément au mercenariat, toutes les entreprises de sécurité privée. D'où la nécessité d'évoluer dans ce qui était devenu un marché, puisque la sécurité, c'est un droit, mais c'est également un bien qui peut donner...
Ce qui explique aujourd'hui le retard des sociétés privées françaises que déplorent aujourd'hui un certain nombre de députés.
Tout à fait. Le rapport Ménard et Violet de 2012 a été à l'origine de cette réflexion sur la nécessaire évolution du modèle français qui a abouti à la loi du 1er juillet 2014 relative à la sécurité des navires en haute mer. Et depuis lors, l'état d'esprit que décrivait Walter Hostel à l'instant est légèrement différent, puisque pendant toutes les années 2000, alors que l'on parle beaucoup du fait de l'Irak et de l'Afghanistan, de ces sociétés militaires privées, il y a une hostilité généralisée en France vis-à-vis du phénomène. Depuis la loi de juillet 2014, le phénomène a disparu des écrans radars. On n'en parle plus. Il y a une sorte de normalisation de cette activité en France et à l'échelle internationale. En France, puisque le ministère de la Défense recourt classiquement maintenant à ces opérations, on a commencé par le Balargone.
Rappelez-nous.
Alors le Balargone, le ministère de la Défense n'a pas les moyens, n'a pas la possibilité juridique d'être en déficit. Il a besoin de déménager, d'avoir des installations modernes. Il n'a pas les moyens et donc il commande à un opérateur privé l'immeuble dont il a besoin. Mais il avait déjà commencé en 2008 avec l'ALAT, avec le PPP d'Edidax. Donc le ministère de la Défense a évolué, mais il y a également une évolution internationale avec une norme internationale, et là c'est extrêmement important, de 2015.
Alors on va voir comment cette norme s'est mise en place, et pour cela il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. On disait que peut-être les sociétés privées de défense françaises avaient pris du retard par rapport aux sociétés américaines. Est-ce à dire, Walter Bruyère-Ostels, que avant l'affaire Blackwater, sur laquelle on va revenir, le cadre législatif américain était particulièrement souple, c'est peu de le dire?
Oui, alors c'est une question juridique, c'est aussi une question culturelle en fait. Et pour rejoindre ce que disait Jean-Jacques Roche à l'instant, on part en réalité d'une France qui est, je dirais, tétanisée dans les années 90 par son histoire de mercenaires en Afrique au temps de la guerre froide, autour de la personnalité de Bob Denard par exemple. Et puis, à l'opposé, on est dans un modèle culturel anglo-saxon où la part du privé en association à l'action des armées a toujours fait partie, finalement, du modèle militaire. Et donc, quand il y a une remontée en puissance, parce qu'en fait, ça a toujours existé chez les anglo-saxons, quand il y a une remontée en puissance de la part prise par ces sociétés militaires privées dans les années 2000, avec d'énormes contrats à la clé, on va avoir effectivement toute une série de dérapages qui, là encore, ne sont pas le fait du système de délégation à ces sociétés, mais qui sont essentiellement des éléments de contexte. On est dans une guerre en Irak, si on va vers la question de Blackwater, pour laquelle il y a un mot d'ordre américain qui est la guerre contre le terrorisme avec la volonté à tout prix d'obtenir des résultats. Il y a déjà le contexte d'une guerre qui est extrêmement violente. Ces événements s'inscrivant eux-mêmes dans des actions où, dès les années 90, des sociétés militaires privées étaient au cœur du combat, c'est-à-dire mener des missions offensives, mais ça plutôt sur des théâtres plus faciles, je dirais, de guerre asymétrique en Afrique.
Alors on va s'arrêter un petit peu sur le scandale Blackwater, justement, si vous le voulez bien, Walter Brugger-Ostels. En 2007, 6 employés de cette société tirent à la mitraillette et lance des grenades dans une zone très fréquentée de Bagdad.
Je passais dans la rue, je ne faisais de mal à personne. Ils ont ouvert le feu comme ça, sans aucune raison. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi ils nous ont tiré dessus. Le gouvernement irakien ne peut pas tolérer ce que Blackwater a fait aux citoyens irakiens. Le gouvernement a plaidé en faveur d'un procès depuis le premier jour. Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement des États-Unis va faire appel de cette décision. Notre ministère de la Justice va faire appel de ce jugement.
Voilà un extrait d'un reportage diffusé en 2010. 4 salariés de Blackwater ont depuis été condamnés. Jean-Jacques Roche, quel regard est-ce que vous posez sur cette affaire qui a attisé largement la défiance à l'égard de ces sociétés privées ?
Alors, il y a 3 points, je crois, qui doivent être relevés. Tout d'abord, Blackwater est bien évidemment symptomatique et Blackwater porte tous les péchés de la profession. Ceci étant, ce n'est certainement pas la pire de ces entreprises. Le vrai problème de la marchandisation de la sécurité, ce sont les contrats en cascade avec des appels d'offres dans lesquels les États essayent de tirer au maximum les prix. Donc des sociétés pas toujours très sûres vont postuler et en plus elles vont sous-contracter et en bout de chaîne, nous avons des contractors qui sont bien plus dangereux que ceux de Blackwater. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que il y a incontestablement des bavures. Et là, vous faites référence à l'affaire du marché de Bagdad, mais vous avez également des bavures militaires. Là, on parle de dommages collatéraux. Et Abu Ghraib, que je sache, n'est pas géré.
Alors, il faut rappeler que c'est une prison en Irak où on peut plus être torturé un certain nombre de détenus irakiens par les forces américaines.
Par les forces américaines, par des forces qui venaient de la réserve opérationnelle, enfin la garde nationale américaine. Donc, c'est le deuxième point à voir. Et le troisième point, c'est qu'il y a un a priori lorsque l'on parle de ces entreprises, vous avez parlé vous-même du scandale. Or, aujourd'hui, le marché s'est rétracté, comme vous l'avez notifié. Les budgets américains en Irak et en Afghanistan se réduisent comme peau de chagrin. Et toutes ces entreprises, aujourd'hui, visent les 8 milliards des opérations de maintien de la paix. Or, pour avoir accès à ces 8 milliards, il leur faudra montrer patte blanche. C'est-à-dire, il faudra montrer que ce sont des entreprises qui font correctement leur métier.
Mais c'est en tout cas dans le sillage de cette affaire Blackwater que les sociétés privées ont été mieux régulées, Walter Brugger-Ostels.
Oui, tout à fait, parce que le gouvernement américain s'est rendu compte en réalité qu'il avait sans doute délégué avec trop de marge de liberté. Et puis encore une fois, le contexte plus global changé. Jean-Jacques Roche a rappelé le scandale d'Abu Ghraib. Cette guerre contre le terrorisme, elle a engendré des excès de tous les acteurs en fait qui étaient engagés, aussi bien des forces régulières que des sociétés militaires. Et donc, de façon à revenir dans des normes qui soient acceptables par les opinions publiques, parce que l'enjeu principal pour les États, c'est ça. L'État américain, pour commencer, a cherché des modalités pour contraindre les sociétés à des comportements plus éthiques. Blackwater, et c'est tout à fait symptomatique, a perdu les contrats suivants sur lesquels elle avait postulé. Elle a changé de nom, puisque la question de son image devenait un problème. Mais tout ça, encore une fois, sous la conduite de la puissance publique, hein, qui a progressivement construit des clauses beaucoup plus restrictives dans ses contrats, qui a amené les sociétés privées à s'asseoir autour de la table avec le CICR, c'est le document de Montreux, avec des acteurs nationaux, etc. Pour
là, vous parlez du code de conduite international qui a été mis en place en 2010 à l'initiative de la Suisse.
Exactement. Et donc, on voit bien un mouvement de fond pour aller vers cette régulation.
Jean-Jacques Roche.
Alors, cette régulation est également voulue par les acteurs eux-mêmes. Les sociétés américaines se sont organisées sous la tutelle de Doug Brooks dans le cadre de l'International Peace Operation Association, qui est devenue l'ISOA aujourd'hui, car il y a quand même une logique de marché. Et dans cette logique de marché, l'acteur qui fausse sa concurrence fausse le marché. Et donc, les entreprises respectueuses de leur mission et respectueuses du cadre international, du cadre juridique, sont en défaut face aux entreprises beaucoup moins respectueuses. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire confiance simplement à ces entreprises et au marché, mais il y a malgré tout une autorégulation intérieure. Et dans le cas français, nous constatons que la majorité des entreprises du secteur ont un code de déontologie et sont demandeurs d'avoir un encadrement comparable au CNAPS, comparable à ce qui existe pour le Conseil national des activités de sécurité privée. Donc, à avoir le même cadre juridique et éthique pour encadrer la concurrence.
Parce que l'une des craintes qui était soulevée, effectivement, c'est que ces entreprises privées alimentent des conflits dont elles tirent un bénéfice économique. Et c'est ce qui a été reproché, par exemple, à la société britannique G4S dans les années 2000. Walter Breuer-Hostel.
Oui, alors évidemment, c'était... Alors, par ailleurs, hein, encore une fois, je crois que c'est vraiment une question culturelle. Cette réflexion est beaucoup plus marquée chez les Français que dans d'autres sociétés. Mais évidemment, en arrière-plan, c'était la question de l'intérêt de société à attiser eux-mêmes des théâtres de crise pour pouvoir ensuite répondre à des appels qui seraient ouverts pour venir éteindre le feu sur ces mêmes espaces. En réalité, les choses ne sont pas forcément déroulées de cette façon-là à cause de ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Et puis, si on en vient à G4S, je crois qu'il y a deux éléments. Le premier, et ça renvoie à ce que disait Jean-Jacques Roche, ces sociétés, elles ont besoin d'éthique. Alors, en partie pour des questions de marché, mais en partie aussi parce qu'elles sont déployées sur les marchés nationaux et donc elles sont au contact direct du public qui pourrait avoir des réactions hostiles face à des actions qu'elles feraient à l'extérieur. G4S, par exemple, a géré les Jeux Olympiques de Londres.
Ça n'a pas été une réussite.
Ça n'a pas été une réussite. Et là encore, je crois que ça les a obligés justement à des efforts par la suite. Et puis le deuxième point, c'est que la baisse des contrats substantiels sur les théâtres de crise les plus conséquents, c'est-à-dire l'Afghanistan et l'Irak, a amené à des fusions entre ces sociétés. Et plus ces sociétés ont grossi, j'allais dire, plus elles ont une approche managériale telle qu'on peut le trouver sur d'autres secteurs, avec du coup des règles de procédurales et des règles éthiques beaucoup plus strictes. Et G4S, au final, est dans cette progression-là, parmi d'autres, parmi les très très gros acteurs du secteur.
Jean-Jacques Roche.
Alors, deux points en complément de ce que vient de dire mon collègue. Tout d'abord, il est clair que nous sommes passés d'un mercenariat entrepreneurial à un mercenariat en holding. Les sociétés qui ont été créées au début des années 90 par des colonels nouvellement retraités, ces colonels ont aujourd'hui largement 85 ans, et si leur entreprise a rencontré les succès qu'ils attendaient, ces entreprises ont été rachetées par de grands groupes. D'où cette évolution que Walter Breuer-Hostel décrivait. Mais il y a un deuxième point lié au marché. Dans la logique libérale, et là je vais jouer le libéral de service, dans la logique libérale, vous gagnez de l'argent lorsque vous procurez un bien rare. Quel est le bien rare? Le bien rare aujourd'hui, c'est la sécurité, ce n'est pas l'insécurité. Et donc ces entreprises sont encore une fois appelées par le marché à remplir leur mission. Alors bien évidemment, on ne peut pas se fier encore une fois seulement à la logique de marché, mais on ne peut pas faire de la logique du marché l'adversaire de l'éthique.
Alors pour bien comprendre cette figure du mercenaire, je vous propose de revenir quelques décennies en arrière pour voir l'évolution.
Monsieur Denard, mon commandant.
Bien respect, mon commandant.
Bonjour, monsieur Denard.
Vous êtes sans doute au courant des démarches qu'entreprend le Premier ministre Tshombe afin d'engager des volontaires pour le Congo.
En effet.
Eh bien, j'ai été contacté dans ce cadre, ainsi que mes hommes, cela va sans dire, et j'envisage d'accepter la proposition. Mais avant d'accepter officiellement, je voulais m'assurer que je ne contrecarrais en rien la politique africaine de la France.
Vous avez des sympathies communistes, Denard ?
Pas précisément, non.
Ce livret militaire, c'est pas fameux, hein ? Quartier maître deuxième classe au sein de la flottille amphibie d'Indochine Sud en 48, mais en voie prématurée en métropole après la destruction d'un débit de poisson à Vinemonde.
Oui. Une histoire de gamin.
Et donc, 53, Casablanca, entré dans la police shérifienne, lutte antiterroriste, très bien. Effectivement. Et donc, votre premier engagement comme mercenaire remonte à 4 ans. C'est bien ça ?
Je préfère le terme de volontaire.
Voilà un extrait du film Mr. Bob, sorti en 2011 et consacré à Bob Denard, donc célèbre mercenaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie de Bob Denard, Walter Bruyère-Hostel, vous qui y avez consacré un livre, et notamment, qu'est-ce qu'on peut dire de ses agissements aux Comores ?
Ah, alors, ce sont deux questions un peu différentes finalement, puisque si on parle de sa vie, bah, c'est quelqu'un qui a construit finalement une histoire, une légende autour de sa personne à partir d'un contexte qui est celui du Congo des années 60, ce qui est rappelé dans l'extrait de Mr. Bob que vous venez de passer. À partir de là, il a incarné pour la France les relations troubles avec les actions clandestines de l'État, avec les services secrets, et l'apogée, j'allais dire, de cette construction d'un mercenariat dans ce qu'on appelle couramment le système France-Afrique, aboutit effectivement entre 1978 et 1989 à la mise en place d'une garde présidentielle aux Comores, donc dans ce qu'on appelle le précaré de la France en Afrique. Cette garde présidentielle, elle a une particularité, et c'est ça qui fait la singularité de Bob Denard, c'est que c'est en fait une société militaire privée. Les personnels sont payés par Bob Denard, et cette société militaire privée a un client unique, qui est le président Ahmed Abdallah, donc président des Comores, dans la période que je viens de citer. Et ce modèle a donné une influence énorme, en fait, à Bob Denard aux Comores dans cette période-là, a fait de lui un interlocuteur privilégié dans les rapports avec la France, mais aussi l'Afrique du Sud. Et c'est cette apogée, finalement, du système qui va laisser le souvenir marquant et du coup très négatif dans l'esprit des Français dans la période suivante, c'est-à-dire les années 90 que nous avons évoquées tout à l'heure.
Jean-Jacques Roche.
Mais il y a quand même un point qu'il faut relever, c'est en 1968 au Biafra, nous avons sur ce théâtre d'opération, donc sécession des populations Igbo
dans le sud du Nigeria.
Nous avons deux personnages emblématiques finalement de l'après-guerre froide, c'est-à-dire le mercenaire, French Bob Denard, et les French Doctors avec Bernard Kouchner.
Alors, c'est pas les mêmes enjeux.
C'est pas les mêmes enjeux, mais là, on voit bien qu'on assiste à une forme de fin du tout politique. Il y a des acteurs privés qui font irruption sur la scène interétatique.
Mais alors, quelle preuve est-ce qu'on a, Walter Bruyère-Hostel, justement, des liens de Bob Denard avec le gouvernement français et quels étaient les intérêts de la France aux Comores, en particulier à ce moment-là?
Alors, des éléments qui attestent des relations. On a toute une série, j'allais dire, d'indices matériels, mais évidemment, les indices matériels sont soit couverts par des questions de secret défense, soit ont pu être détruits, par exemple, quand Denard réembarque pour quitter les Comores en 1989. Tous les témoins que j'ai pu entendre m'ont expliqué comment toutes les archives avaient été passées à la moulinette pour qu'il ne reste pas de traces compromettantes de liens de ce type. Ceci dit, on a eu, notamment à travers les procès de Nard, donc avec des éléments qui ont été rendus publics, mais aussi toute une série de documentaires, etc., des personnages de premier plan, notamment des services secrets. Je pense par exemple à Claude Zilberzan, qui est le directeur de la DGSE à la fin des années 80, qui ont reconnu ces relations avec tout un jeu plus ou moins ambigu, hein, allant du fameux feu vert jusqu'au feu rouge de la DGSE aux actions des mercenaires. Autre personnage qui a publiquement témoigné de ses relations avec Denard, c'est Michel Roussin, qui sera ensuite un acteur politique, mais qui était d'abord passé lui aussi par les services secrets, ou d'autres acteurs de premier plan de ce système dit France-Afrique.
Jean-Jacques Roche.
La mansuétude de la justice à l'égard de Bob Denard est quand même un indice assez concluant.
Est-ce qu'on peut dire que cette figure, pour finir sur Bob Denard, cette figure de Bob Denard incarne finalement le mercenaire à l'ancienne, même si les liens avec les services secrets français, c'est une pratique qui continue à exister entre mercenaires et services secrets, Walter Brueyer-Hostels?
Alors c'est une figure à l'ancienne, oui, incontestablement. Il incarne ces gens qui se sont élevés à la force du poignet en étant vraiment au cœur du combat, ce qui est depuis les années 90, ce qui n'existe plus. Et en même temps, il préfigure quand même le monde d'aujourd'hui. Ce que je disais, il a cherché sans jamais réussir à créer officiellement une société privée. Le dernier point, c'est que sur le changement, finalement, ce sont des changements culturels qui fait qu'on ne peut plus voir un Bob Denard. L'action secrète des États qui a rendu possible la carrière de Denard, elle n'était imaginable que dans le cadre de la guerre froide. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais en même temps, on a toute une série d'éléments depuis les années 90 qui laissent des parts d'ombre. Je pense par exemple à la société MPRI et son rôle d'appui à l'armée croate dans les années 90, en rapport très étroit finalement avec le monde politique américain, voire avec les services américains. Et puis on parlait tout à l'heure d'Abu Ghraib. L'action secrète de la CIA pose un certain nombre de questions à Abu Ghraib. On sait qu'il y avait des traducteurs qui participaient aux renseignements américains, qui étaient en fait des employés de sociétés privées. Donc on a une petite part d'ombre malgré tout encore aujourd'hui.
Et on va voir que ce marché des sociétés privées s'est mondialisé avec l'arrivée de nouveaux acteurs. On en parle dans un instant.
Nous marchons par tous les temps, même sous l'orage, par les plaines et par les champs, et dans les villages. Les gens nous montrent du doigt en nous regardant passer. Mais les filles, quelquefois, nous réchauffent d'un baiser. Nicolas, Nicolas, ces 20 années de misère. Nicolas, Nicolas, que j'ai connu avant toi. Nicolas, Nicolas, plutôt 20 ans de galère. Nicolas, Nicolas, que d'être un soldat du roi. Sans argent et sans métier, que pouvions-nous faire? Pas besoin d'être bachelier pour partir en guerre. Car on ne possédait rien que des souliers fatigués, que les herbes des chemins la nuit pour se reposer. Nicolas, Nicolas, ces 20 années de misère. Nicolas, Nicolas, que j'ai connu avant toi. Nicolas, Nicolas, plutôt 20 ans de galère. Nicolas, Nicolas, que d'être un soldat du roi.
Le mercenaire de Jean Ferrat sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Walter Brueyer-Hostels et Jean-Jacques Roche sont toujours avec nous pour parler des nouveaux mercenaires.
C'est un milieu qui, ces dernières années, s'est très professionnalisé. Si on prend l'Irak ou l'Afghanistan, surtout l'Irak au début, en 2003, on a vu un peu tout et n'importe quoi. On a recruté à tout va, enfin les Américains essentiellement et les Anglais, en recrutant effectivement tous ceux qui étaient partants. Alors au fur et à mesure, on a pu faire le tri. Donc on a fait le tri en cherchant plutôt du haut de gamme, à un tel point que sur des guerres de longue durée, 7 ans pour l'Irak et plus encore pour l'Afghanistan, on a retrouvé des gens qui avaient servi sous l'uniforme, qui ensuite servent au titre d'une société privée où ils retrouvent même leurs collègues qui, eux, continuent de servir sous l'uniforme. C'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes d'ordre relationnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a affaire globalement à un profil type, à un sous-officier qui a 15 ans de service dans des troupes d'élite et qui bascule ensuite, à la fin de son contrat, dans une entreprise privée. Sachant qu'il y a un autre phénomène auquel on a assisté, notamment avec l'Irak et l'Afghanistan, c'est qu'avant, on avait essentiellement du contracteur blanc, entre guillemets, issu des armées régulières occidentales. Et aujourd'hui, le modèle a un peu changé. C'est-à-dire que l'encadrement est toujours sur ce modèle, mais recrute pour le garde lambda au niveau local. Il va recruter de l'Irakien, de l'Afghan, pour ce qui est du gros de la troupe, et qui sera encadré par contre par des gens en provenance des États-Unis ou de la Grande-Bretagne.
Olivier Hubach, spécialiste de l'intelligence stratégique sur France Culture, c'était en 2010. Qu'est-ce qu'on peut dire, Walter Bruyère-Ostels, de cette professionnalisation des sociétés de sécurité privées et de la diversification de leur recrutement ?
Alors tout d'abord, je voudrais dire que c'est pas neuf, c'est-à-dire que c'est toujours le problème de l'offre et la demande. Il faisait référence à l'Irak. L'Irak, c'est tout à coup un énorme besoin. Donc on prend les gens qui se présentent, et puis quand il y a une décrue des besoins, ben on monte en qualité parce qu'on est en capacité d'être plus sélectif. Il y a eu exactement la même chose en réalité avec le mercenariat artisanal entre l'apogée des recrutements des années 60 pour Bob Denard et ce qu'il va faire au Cobor où il va chercher des officiers de réserve, des gens qui ont fait des études, qui ont forcément le bac, etc., etc. On était dans cette même logique. Alors ceci étant dit, on est aujourd'hui aussi sous la pression de tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, sur la question de la transparence des activités de ces sociétés, des opinions publiques, des logiques de marché qu'a rappelé Jean-Jacques Roche. Et tout ça oblige effectivement les sociétés, qui par ailleurs sont gérées de plus en plus par des cols blancs, à être dans cette logique de professionnalisation et d'excellence. Mais... avec dernier point, excusez-moi, avec le dernier point, ce qui a été évoqué aussi dans votre interview, c'est celui finalement d'une dissociation entre le monde très structuré des sociétés militaires privées du monde occidental et puis des sociétés ou des personnels issus des Suds, pour lesquels les normes de professionnalisation sont beaucoup plus critiquables ou interrogeables.
Mais avant d'en venir effectivement au développement de sociétés de sécurité chinoises, russes et différents groupes qu'on peut associer à des milices dans un certain nombre de pays, qu'est-ce qui pousse d'anciens militaires, parce que ce sont souvent d'anciens militaires, Jean-Jacques Roche, à s'engager dans ces sociétés de sécurité privées ? Est-ce que ce sont avant tout des considérations financières ou est-ce que ça peut aussi y avoir des considérations idéologiques ?
Bon, il y a trois points. Le premier point, c'est l'âge déjà. Les militaires sont mis en retraite de plus en plus tôt, et donc il y a la nécessité de trouver un salaire simplement pour vivre. Or, ils ont acquis un métier, une spécialité. Il y a un marché pour cette spécialité. Il est naturel qu'ils s'orientent dans cette direction. Le deuxième point, c'est que les militaires qui choisissent d'aller vers ces sociétés aiment le risque, aiment l'adrénaline. Et donc c'est un moteur, et là j'ai pu le voir dans les rencontres que j'ai eu l'occasion de faire, c'est un moteur extrêmement important pour la motivation de ces différents acteurs. Et puis, il y a aussi le fait que dans les situations de crise, les salaires peuvent être vraiment conséquents. Mais avec un bémol, il faut voir que ces soldats sont en général, non pas par les grands, non pas par Académie aujourd'hui, G4S ou autre, mais par des sociétés plus petites, ces contractants sont payés à la journée. Et si finalement ils doivent payer leur assurance, doivent payer leur logement, doivent payer bien souvent la garde de leur logement, quand, et avec Philippe Chaplot, nous étions amusés à faire un bilan, finalement il est plus intéressant de rester sous-officier dans l'armée régulière plutôt que de s'engager.
Et alors là on parle effectivement des mercenaires plus occidentaux, parce qu'il y a un certain nombre de mercenaires qui n'ont pas forcément le choix, Walter Bruyère-Ostels, je pense à des groupes armés qui peuvent être poussés à l'exil, c'était le cas de Touareg nigériens, islamistes qui avaient été recrutés par les Émirats Arabes Unis pour se battre sur le front yéménite, ou encore des mercenaires qui ne savent pas précisément en quoi consistera leur mission.
Oui, alors c'est tout l'enjeu effectivement de la précarité. Alors d'une certaine façon, Jean-Jacques Roche a rappelé des formes de précarité plus importantes pour les anciens militaires. On est évidemment dans un monde beaucoup plus difficile quand on est dans des États du Sud. Alors il est difficile de savoir dans ces cas-là, et si on fait référence aux Nigériens que vous évoquez, où il y a eu le cas avec des Tchadiens aussi d'ailleurs, qui construit finalement, quelle ambiguïté se dessine, c'est-à-dire que des commanditaires, par exemple ici pour les Émirats Arabes Unis, avec des besoins sur le théâtre yéménite, vont aller dans des États où il y a une pauvreté importante en Afrique. Selon certains témoignages, on peut être sur des systèmes où il y a il y a un vrai non-dit sur ce qui va être la mission, effectivement, voire quasiment de la rafle. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été relevés au Tchad. Et inversement, il peut y avoir des gens qui effectivement sont non seulement dans la précarité, mais aussi dans des difficultés politiques, et là c'est effectivement plutôt ce qu'on observait avec les milices nigériennes, qui ont tout intérêt finalement à aller sur l'offre qu'on leur propose pour rejoindre un théâtre, quand bien même le risque de mourir sur ce théâtre est très très important, mais ils ont finalement peu à perdre.
Et là, on parle d'État non démocratique, donc c'est évidemment beaucoup plus compliqué de superviser, d'encadrer les pratiques de ces sociétés sous-traitantes locales, Jean-Jacques Roche.
Très clairement, mais en fait, ces sociétés, comme cela a été dit, travaillent le plus souvent avec des entreprises occidentales. Et donc, elles vont fournir la main-d'œuvre, laquelle va être encadrée par des sous-officiers ou des officiers émanant des forces spéciales des grandes nations. Des grandes nations qui, d'ailleurs, dans le cadre du SAS britannique, pour faire face à l'hémorragie, avaient permis à ces sous-officiers de prendre une année de champ pour aller gagner de l'argent avant de revenir sur place pour éviter justement l'hémorragie des compétences. Mais nous assistons incontestablement à une division internationale du travail avec en haut de chaîne plutôt des personnes formées, plutôt de couleur blanche, avec des salaires élevés, et en bas de chaîne des personnes de couleur exposées, bien davantage exposées aux menaces et avec des salaires sans commune mesure.
Mais des sociétés anglo-saxonnes qui sont de plus en plus concurrencé par des sociétés de sécurité russes.
On commence à découvrir depuis les opérations en Géorgie en 2008, on commence à découvrir que voilà, les Russes, comme les Américains, deviennent experts dans le maniement de ces armées semi-officielles et dans l'exploitation de leurs grands avantages. Ça se manifeste tout particulièrement dans le Donbass depuis un an et demi, où les opérations recourant à ce type de ressources stratégiques sont nombreuses. Il y a d'autres théâtres, partout où les intérêts russes sont défendus sous une forme non conventionnelle ou non traditionnelle, ces forces sont présentes. Il y a aussi, d'un point de vue strictement géopolitique, des ressortissants russes ou de l'espace soviétique qui sont présents sur des théâtres d'opération. Notamment, vos auditeurs africains le savent bien, les russophones assurant des services de sécurité, que ça va de l'entraînement jusqu'à la logistique ou à des sécurisations de sites, sont très présents en Afrique.
Le chercheur et spécialiste de la Russie, Cyril Brett, interviewé sur France 24 en 2015. Ces sociétés privées russes sont montées en puissance, Walter Bruyère-Ostels. On l'a vu notamment avec le groupe Wagner, pourvoyeur de mercenaires russes dans le Donbass, mais aussi en Syrie et même plus récemment en Centrafrique.
Oui, alors enfin oui et non en fait, puisque la façon même dont vous avez construit votre phrase montre l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on est parti d'une société officielle qui était Slavonic Corps, qui était basée à Hong Kong, et là on est bien dans le cadre des sociétés militaires dont on parle depuis le début de cette émission, et puis ce groupe est revenu vers quelque chose qui ressemble beaucoup au mercenariat en fait du temps de la guerre froide, c'est-à-dire une action militaire qui est d'ailleurs plutôt dans des actions offensives sur un certain nombre de théâtres d'opération, et en relation directe avec la politique secrète de la Russie. C'était le cas du Donbass auquel il a été fait référence. Ça a été le cas en Syrie, que ce soit à Palmyre ou dans la région de Deir ez-Zor pour les années 2017-2018.
Et plus récemment, les intérêts russes se portent sur l'Afrique.
Exactement, avec à la fois des questions de vente d'armes de l'État russe à l'État centrafricain et dans la foulée, curieusement, l'arrivée de ce groupe Wagner, et vous voyez bien qu'on parle plus de société, qui vient sur ce même théâtre centrafricain. Donc on est dans cette relation très trouble avec l'État et non plus dans la relation qui est censée être transparente, qui est celle des sociétés militaires privées, avec un contrat établi en bonne et due forme, excusez-moi.
Jean-Jacques Roche.
Et cela, ces propos relativisent vraiment l'idée que l'on est face à un phénomène nouveau. En fait, nous avons là le retour à une milice assez classique, et cette milice est inscrite géographiquement dans une région, c'est la Kosaki. Et donc, nous avons des vieilles raisons historiques qui sont à l'origine de la résurgence de groupes militaires privés et qui se remettent au service d'une diplomatie qui n'a en fait pas beaucoup changé de nature depuis l'ancien régime, depuis le tsar. Mmh. Et nous avons exactement le même phénomène en France, puisque finalement, les harkis, c'était des supplétifs, les corps francs, les cantinières, les corsaires étaient des acteurs privés qui se plaçaient au service des intérêts du roi ou du royaume ou du politique.
Mais c'est important effectivement de distinguer ces sociétés ou ces milices qui ont un rapport trouble avec l'État et celles, ces d'autres sociétés qui auraient pignon sur rue. Ce qu'on constate tout de même, c'est qu'il y a une concurrence de plus en plus importante entre ces sociétés de sécurité privées. Il y a aussi les sociétés de sécurité chinoises qui se sont largement développées, Jean-Jacques Roche, en particulier avec le développement des projet d'infrastructure de la route de la soie et aussi, là encore, des intérêts chinois sur le continent africain.
Oui, et les Chinois sont aujourd'hui en position de communiquer. Nous avons un film récent, Wolf Warrior 2, qui est sorti il y a 2 ans, qui est un blockbuster en Chine. Et à la fin du film, j'ai assisté à une séance à Pékin, le public se levait. Et c'est véritablement un ancien des forces spéciales chinoises qui est recruté pour servir les intérêts d'entreprises chinoises, du fait que les Chinois sont très présents en Afrique, avec des exploitations agricoles énormes, nécessité de protéger les infrastructures. Les Chinois ne cachent plus leur présence en Afrique. C'est en effet nouveau. Mais dans le même temps, il y a des casques bleus chinois. Et je crois que les deux vont de pair.
Les sociétés anglo-saxonnes, en tout cas, ont compris que le marché chinois de la sécurité, c'était un marché juteux. Walter Brueyer-Hostel, je pense en particulier au fondateur de Blackwater dont on a parlé, Eric Prince, qui a fondé cette société Frontier Service Group, qui fournit des services de sécurité à un groupe public chinois d'investissement.
Oui, alors, vous savez, Prince, c'est quand même une personnalité tout à fait atypique, qui a vu son destin devenir extraordinaire avec ce moment Blackwater du milieu des années 2000 où on parlait vraiment d'une armée privée, où on citait un nombre d'hélicoptères de combat, etc. à sa disposition. Donc une sorte de roi, de calife à la place du calife. Et puis il est très vite tombé de son petit nuage et depuis il propose un petit peu tous azimuts ses services, donc proposition vers les Chinois que vous évoquez précédemment, proposition qui avait reçu une fin de non-recevoir à Trump en 2017 de remplacer l'armée américaine en Afghanistan. Bon, voilà, Prince, c'est pas quelqu'un, je pense, de représentatif des évolutions générales du milieu.
Mais plus largement, sur cette montée en puissance des services de sécurité chinois.
Alors, la Chine, de mon point de vue, ressemble beaucoup à ce que fait la Russie, c'est-à-dire qu'elle a une vraie logique géopolitique sous la conduite de l'État. Les sociétés militaires occidentales qu'on évoquait, elles ont des logiques d'entreprise, avec des études de marché, des positionnements qui sont réfléchis de façon managériale. Chez les Chinois comme chez les Russes, mais restons sur le cas des Chinois, le rapport à l'État est extrêmement étroit. Et en fait, c'est le déploiement de l'État à l'échelle globale qu'on observe sous toute sa forme. Ça va de l'entreprise qui va faire du bâtiment, qui va arriver très en amont, j'allais dire, du reste. Ça va être ensuite des activités économiques, puis ces sociétés militaires privées, puis, Jean-Jacques Roche l'a dit, et à mon sens c'est très très juste, dans un dernier temps, l'action visible régalienne, par exemple avec effectivement les casques bleus qui sont là quand même, même s'ils sont sous casque bleu, qui incarnent l'État chinois dans son déploiement très loin désormais de sa zone habituelle, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est.
Mais sur un plan purement économique, ça crée de la concurrence tout de même pour les sociétés anglo-saxonnes qui sont les plus puissantes sur ce marché des sociétés de sécurité privée, puisqu'auparavant, ces sociétés anglo-saxonnes étaient recrutées par des entreprises chinoises, mais maintenant, elles passent par des sociétés privées chinoises.
Oui, mais encore une fois, ça renvoie à la question de la qualité qu'on peut présenter. Les sociétés occidentales se sont justement construites comme mieux-disante en termes éthiques, en termes de transparence. Les Chinois sont pas du tout pour l'instant sur ces standards.
Et alors on disait effectivement que les États pouvaient avoir des intérêts importants sur à propos de ces mercenaires, par exemple là, cette question d'un contrôle qui serait éventuellement moins important, le fait que des militaires de métier seraient affectés ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des avantages de ce type de société pour le gouvernement américain, Jean-Jacques Roche par exemple?
Le gouvernement américain a été très très loin, comme Walter l'a dit à l'instant, pendant la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan. Il s'est rendu compte qu'il a été beaucoup trop loin. D'où la création à l'intérieur même de l'armée américaine d'un corps spécial d'officiers qui fait le lien entre les armées et les sous-contractants, et d'une manière plus générale, cette idée selon laquelle on ne peut plus recourir à ces contractors pour cacher le retrait américain. C'était ce qu'avait fait Obama, puisque Obama, arrivant au pouvoir, avait déclaré en 2008-2009 un retrait, s'était prononcé en faveur d'un retrait américain, qui n'était pas possible, et à l'époque, il avait compensé le retrait des troupes par des compagnies, des sociétés militaires privées. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même si ces sociétés sont toujours très présentes sur le théâtre irakien et afghan, il y a l'âge d'or est largement terminé. Et donc ces sociétés, face à une concurrence élargie et à des contrats qui sont plus difficiles à trouver, des sociétés qui se livrent aujourd'hui à une concurrence plus acharnée, ce qui va conduire, et on est en train de le constater, un tri sélectif. Les sociétés les plus fragiles vont être appelées à disparaître, et celles qui vont rester sont pas obligatoirement les plus immorales, les plus grosses, ce seront peut-être les sociétés les plus solides.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, Walter Bruyère-Ostels, sur cette privatisation croissante de la guerre, ou en tout cas elle peut être perçue ainsi et provoquer un certain nombre d'inquiétudes. Quels sont selon vous les prochains enjeux auxquels feront face les États face à ce développement du mercenariat?
Je crois que les enjeux n'évoluent pas beaucoup en réalité, puisque finalement, à la faveur de l'expérience américaine de cette délégation vers des sociétés privées, on a trouvé un point d'équilibre à partir du moment où les normes sont construites entre les deux contractants. La question ou l'enjeu de fond, finalement, c'est le rapport entre l'État commanditaire, ou potentiellement l'entreprise commanditaire, et la société militaire privée. Quand on est face à l'État américain, on voit bien aujourd'hui que finalement, les choses se passent globalement bien. Quand on est dans un déséquilibre beaucoup plus grand, ou au moins partiellement plus grand, ça peut poser problème. Donc l'ambiguïté, elle est plutôt du côté des États, de leur capacité à imposer, et puis de ce qu'elles souhaitent ou pas imposé. J'en veux pour exemple, pour revenir à G4S, le contrat sur les checkpoints en Palestine. Bon, on voit bien là que Israël ne va pas aller vers une exigence extrême vis-à-vis de G4S, qui importe pour les Israéliens, c'est de ne pas avoir trop de soldats israéliens sur cet espace sensible. Et donc, elle laisse finalement une marge d'appréciation à G4S qui a fait naître la polémique. Mais le rapport, l'enjeu, c'est vraiment le rapport de force entre la société et l'État avec lequel elle contracte.
Tout l'enjeu, c'est l'ambiguïté des États ou la capacité à dépasser justement cette ambiguïté, Jean-Jacques Roche.
Je crois que le principal problème, c'est en effet celui de l'État. Le document de Montreux ne s'y était pas trompé, puisque parmi les documents internationaux récents, nous avons ce document de Montreux qui s'adresse aux commanditaires et non pas aux prestataires, l'ICOC s'adressant, lui, ultérieurement aux prestataires. Donc, le problème aujourd'hui, c'est avant de la privatisation de la sécurité, c'est avant tout le problème de l'État.
Et Et c'est l'heure pour nous de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un accord sur le budget de l'Union européenne pour l'année prochaine, un budget en hausse, mais un accord sur le tard et à minima selon certains.
Oui, 168,7 milliards d'euros, c'est supérieur à 2019. Ces fonds seront clairement orientés vers le climat, ce sont 21%, l'agriculture, la pêche, la recherche et l'innovation et la sécurité, notamment les frontières. C'est vrai qu'en dehors de ces quatre postes, il ne reste que 35 milliards d'euros. Pas de grande surprise de ce côté-là. La surprise vient plutôt de l'accord hier soir, alors que les négociations avaient tourné court samedi. Les États et le Parlement européen notamment s'opposaient sur environ 4 milliards d'euros de différence. Finalement, on peut dire que c'est la solution intermédiaire qui a été retenue, plutôt celle de la Commission ou une victoire du Parlement qui s'est verdi lors des dernières élections. Pas exactement, explique Eulalia Rubio. Elle est chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste du budget de l'Union européenne.
En général, ce qu'on peut dire de ce budget, c'est un accent assez marqué sur le climat et sur la recherche. On voit que la question climatique a pris beaucoup d'importance maintenant dans l'agenda européen et le nouveau Parlement est encore plus vert, si on peut le dire. Après, je ne parlais pas d'une victoire du Parlement sur les États, sur la Commission, mais c'est vrai que l'accord final, c'est plutôt favorable aux demandes qu'avait fait le Parlement européen. Donc, on peut dire que le Parlement européen a bien joué ses cartes dans la négociation. Cela dit, il faut toujours relativiser aussi. On parle d'une augmentation de 850 millions sur la proposition de la Commission, de, comme vous avez dit, 160 milliards. Donc, ce n'est pas non plus une révolution. Mais effectivement, ce qui est plus important, c'est que ça montre la capacité de ce nouveau Parlement européen de prendre une position unique dans les enjeux budgétaires. Et ça devrait être aussi un signe d'alerte, au moins un signe de réflexion pour les négociations du cadre financier pluriannuel pour les conseils.
Parce qu'à partir de décembre, Xavier, vont commencer les deuxièmes négociations, celles du budget européen pour la période 2021-2027. Et là, la donne est encore plus compliquée.
Oui, ce sont les négociations sur le cadre financier pluriannuel qui sont dirigées par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État. Alors que le Parlement n'aura qu'un rôle de validation, il faudra gérer les 15% de ressources en moins liées au Brexit. Alors qu'actuellement, au moins deux groupes d'États s'opposent aux propositions de la Commission. Ceux qu'on appelle la coalition des 1%, qui ne veulent pas que leur contribution dépasse les 1% du RNB jusqu'ici utilisé, et puis une coalition des pro-PAC autour de la France, opposée à toute réduction de la politique agricole commune, à suivre donc le 1er décembre.
On passe au bref, avantage ou inconvénient pour mettre en place une réforme. Le système de retraite coûtera plus cher, plus longtemps que prévu, Xavier.
Oui, bien plus cher, bien plus longtemps. Entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit prévu en 2025. C'est la date à laquelle le président Macron souhaitait voir le système à l'équilibre pour pouvoir appliquer la réforme discutée en ce moment. Problème peut-être pour un gouvernement qui ne veut ou ne peut jouer ni sur les cotisations ni sur les pensions. Ou rapport qui tombe bien, soupçonne le vert Yannick Jadot. En tout cas, la seule option serait bien le retour d'un âge pivot à peu près à 63 ans et demi, préconisé par le rapport Delevoye.
Autre rapport, autre polémique, la Cour des comptes recommande de continuer les suppressions d'emplois à la SNCF.
Meilleure productivité, maîtrise de la masse salariale et évolution du modèle social, trois recommandations et une piste que la SNCF poursuive ses 2000 suppressions de postes par an comme en 2017. La CGT dénonce un brûlot et l'UNSA un pamphlet à charge.
Et un dernier rapport américain, celui-là, avec une bonne nouvelle, payer pour éviter la déforestation. Ça fonctionne, Xavier ?
En tout cas, c'est ce que dit une étude de scientifiques d'une université de l'Idaho après avoir étudié l'efficacité des financements norvégiens dans ce qu'on appelle les programmes RED+, programme ONU contre la déforestation. En payant 250 millions, par exemple, de dollars au Guyana entre 2010 et 2015 pour endiguer les forestiers illégaux, eh bien, la Norvège a réduit de 35% la perte d'arbres. Elle tente une nouvelle expérience au Gabon en ce moment, en payant directement cette fois chaque tonne de dioxyde de carbone non émise 10 dollars, ce qui aurait revenu deux fois moins cher si ça avait été appliqué à la Guyane.
I'm sorry. if I try to think of something new.
So Caught Up des Teskey Brothers. Merci beaucoup Walter Bruyère-Ostels et Jean-Jacques Roche de nous avoir emmenés sur les champs de bataille aux côtés des nouveaux mercenaires. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Nîmes qui ont assuré ce duplex. Demain, ce sont les chemins de traverse empruntés par l'économie en temps de guerre que nous allons explorer en compagnie de Leïla Vignal et Kim Osterling. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.